Il y a des mots qui sonnent pour les enfants comme des alertes qui leur échappent parfois. Le terrorisme, la guerre, les catastrophes, les attentats. Et pourtant, souvent, les adultes pensent qu'un événement difficile, voire douloureux, ne touche pas les plus petits et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'en parler avec eux. Comme si les enfants avaient une capacité à ignorer les épreuves qui les entourent. Avec mes invités, nous allons justement tenter de nous mettre à hauteur d'enfants pour comprendre comment les sécuriser lorsque les événements difficiles surgissent, comme une séparation, un deuil ou un attentat. Et c'est le dossier de l'émission. Avec vos questions, vos témoignages, vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, cette étude sur les effets de l'ibuprofène sur la testostérone des garçons.
Oui, une étude franco-danoise qui démontre qu'une prise importante et répétée de cette antidouleur perturbe le système hormonal des jeunes hommes. Et c'est les sportifs professionnels qui sont les plus concernés. On en discute avec les toxicologues Bernard Jégou.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise notre tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Kelevitch.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les enfants face aux événements traumatiques. Dossier donc dans un instant avec mes invités qui sont là autour du micro. La psychiatre Hélène Romano et Catherine Dolto, médecin aptothérapeute. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Hélène Romano. Vous publiez « Quand la vie fait mal aux enfants » aux éditions Odile Jacob. On a souvent tendance à penser en tant qu'adulte que les événements importants ne le sont pas pour les enfants. On minimise beaucoup les choses.
On essaie souvent de se rassurer, surtout en tant que parent, avec l'espoir que nos enfants n'ont pas été touchés, qu'on soit parent ou professionnel. Or, je suis psychothérapeute et chercheur, et dans le cas des recherches, on sait très bien que les enfants, en particulier tout petits, sont doublement impactés, touchés, non seulement parce que leur monde s'effondre, mais parce qu'ils voient que les parents n'assurent plus une continuité de protection psychique, et c'est là-dessus que c'est important de les considérer comme des sujets, même tout petits.
Catherine Dolto, de votre côté, vous publiez un petit livre illustré pour enfants, Les mots et les images qui font peur, chez Gallimard Jeunesse. Ne rien expliquer à un enfant, c'est probablement la pire des choses qu'on puisse faire.
Oui, certainement, parce qu'on sait bien que c'est en comprenant qu'on apprivoise la peur et la douleur. Et comme les enfants, ils ont des antennes de 3 km de long, ils souffrent à titre individuel et ils sentent les grandes personnes déstabilisées. Et ça, ça fait stéréophonie d'insécurité.
On va en parler donc avec vous dans un instant. Les témoignages des auditeurs également qui nous rejoignent donc sur franceinter.fr. La prise répétée d'ibuprofène et ses effets sur la production hormonale, aujourd'hui donc à la une de la science, avec une équipe franco-danoise qui démontre qu'une prise continue pendant 2 semaines de cet anti-inflammatoire perturbe la production de testostérone chez l'homme et entraîne un désordre hormonal. Une démonstration qui s'ajoute à la liste des effets secondaires connus pour ce médicament en vente libre et que nous commentons avec un des auteurs de ces travaux, Axel Villard.
Oui Mathieu, nous recevons le toxicologue Bernard Jégou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INSERM et directeur de recherche à l'EHESP. C'est l'école des hautes études en santé publique. Alors, c'est pas la première fois que l'ibuprofène est dans le giron des toxicologues. Qu'avez-vous cherché à démontrer cette fois avec vos collègues danois?
Alors, notre attention a été attirée par le fait que des hommes qui n'ont pas besoin, pour des raisons médicales a priori, de prendre l'ibuprofène peuvent en prendre à très forte dose et pendant longtemps. Ce sont les athlètes de très haut niveau, Jeux Olympiques, footballeurs, etc. Donc à partir de ça, en coordination évidemment très étroite avec nos collègues danois, nous avons invité des volontaires, dans des règles bien sûr bien établies d'un point de vue éthique, à prendre de l'ibuprofène et nous avons suivi leur bilan hormonal, comme on dit, et qui a montré que effectivement, dès 2 semaines, vous avez une hormone qui est produite par cette petite glande qui est sous le cerveau et qu'on appelle l'hypophyse. Cette hormone, la LH, est très très élevée, qui montre que le testicule est à la peine pour maintenir ses niveaux de testostérone.
Quand vous parlez de grande quantité, ça correspond à combien de comprimés, combien de milligrammes?
Alors, c'est 2 comprimés de 600 milligrammes. C'est une dose élevée, mais une dose qui est communément prise au début d'un marathon, dans les trials divers et variés, et puis qui est indiquée par un athlète sur 2 après des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot, etc.
Et donc là, vous avez trouvé des volontaires pour prendre ces doses?
Oui, nous avons trouvé des volontaires. En fait, l'étude est faite dans un cadre déjà sportif pour voir si y a un bénéfice ou au contraire des effets négatifs. justement sur les conditions physiques de ces jeunes qui ont fait des exercices en même temps qu'ils prenaient l'ibuprofène.
Alors, vous parlez d'effet sur la production de testostérone. Est-ce que ça implique des problèmes de fertilité ou de production de spermatozoïdes ?
Non, on ne peut absolument pas dire ça. C'est une étude à court terme, bien encadrée, etc. Alors, ceci dit, si on en prend très forte dose pendant des mois, voire des années, il est clair que, je dirais, de resserrer le bilan de santé régulièrement et sans alarmisme, bien sûr, peut être utile, surtout si ça correspond à des âges où les jeunes veulent avoir des enfants, etc. Mais ça, je parle à des patients qui en ont besoin. Les effets d'ibuprofène sont positifs à bien des égards. On sait déjà qu'il faut suivre les effets de l'ibuprofène de près parce qu'il y a des effets secondaires indépendamment des hormones qui ont été mis en évidence. Mais il est clair, encore une fois, que si on n'a pas besoin d'en prendre de façon chronique, il faut pas en prendre. On en prend que si on a mal aux dents, juste des périodes que le dentiste ou le médecin indique comme étant utile.
On va écouter Bernard Giroux, Jiri Dvorak, pardon, c'est son nom. Il était médecin-chef de la FIFA et en 2012 déjà, il s'inquiétait de la prise excessive des anti-inflammatoires chez les footballeurs.
When we come to the World Cup 2010,
pendant la Coupe du Monde de foot 2010, environ 39% des joueurs prenaient des antidouleurs à chaque match. Je pense qu'on peut vraiment parler d'abus parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment trop. Ça pourrait avoir des effets néfastes sur les reins et c'est quelque chose que nous devons examiner plus profondément.
Voilà, Jiri Dvorak, donc le médecin-chef de la FIFA en 2012.
Et est-ce qu'après la publication de vos résultats, vous pensez que les sportifs professionnels et semi-professionnels devraient repenser leur consommation de ce médicament qui est en vente libre ?
Oui, bien sûr, les sportifs, mais aussi leur entourage, parce que justement, on trouve ça sur BBC News, suite aux interventions du médecin dont vous avez rappelé l'enregistrement ici. Et les témoignages qui sont sur ce site, là, indiquent que c'est les entourages, surtout des professionnels qui les poussent à consommer ces hautes doses et dans des conditions où en plus toutes les études montrent que les bénéfices en termes préventifs sont même pas établis.
Pas d'inquiétude pour les consommateurs occasionnels alors ?
Non, mais bien sûr sous encadrement médical et après les conseils aussi du pharmacien, s'il le faut sur des périodes courtes, l'ibuprofène est un médicament utile, j'en ai pris il n'y a pas longtemps pour une rage de dents, mais encore une fois sur des périodes courtes et bien encadrées.
Est-ce que vous avez compris les mécanismes de cette perturbation ?
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre boîte à outils, si je puis dire, avec nos amis de Copenhague, mais aussi avec nos amis de Nantes, du Laberca et Rennes bien sûr, dans le labo que je dirige, on a articulé l'essai clinique, d'une part, deuxièmement des cultures de fragments d'organes testicules, c'est des dons d'organes, avec l'accord des familles bien sûr qui nous les donnent et grâce au CHU de Rennes, et de la culture cellulaire. Donc quand vous articulez différentes pièces d'un puzzle comme ça, effectivement, non seulement vous voyez les effets sur les hormones, mais vous pouvez étudier le mécanisme d'action.
Bernard Giroux, vous aviez démontré il y a quelques années les effets perturbateurs endocriniens de ces mêmes molécules chez la femme enceinte et le fœtus. Vous réitérez justement vos préconisations là-dessus ?
Oui, absolument. Ce qu'on avait montré toujours avec nos amis danois, en articulant une nouvelle fois une population humaine, c'est des femmes enceintes et par rapport au suivi de leurs enfants, et puis des cultures d'organes et des cultures de cellules, etc. Nous avons montré que, en particulier, si une femme enceinte, et ça peut être utile pour une femme enceinte, j'insiste bien, mais si elle dit avoir mélangé un peu d'ibuprofène, un peu d'aspirine, un peu de paracétamol, eh bien les risques non descendants des testicules chez le petit fœtus mâle sont augmentés pratiquement de 20 fois. Donc, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme, d'ailleurs, de façon très coordonnée avec l'agence du médicament qui nous finance. Mais pour dire, n'oubliez surtout pas que c'est un médicament. Si vous avez mal en prendre de façon ponctuelle, c'est bon. Si la douleur persiste, parlez-en à votre médecin.
Une dernière question, est-ce que l'ibuprofène doit rester en vente libre ?
Écoutez, la question se pose, bon, chacun doit être à sa place. Maintenant, Dans le dialogue avec les agences, pas seulement d'ailleurs avec l'agence du médicament français, nous avons posé la question, les agences en discutent à Londres où est le siège qui coordonne toutes les agences européennes. Je leur laisse la responsabilité ou non de prendre la décision de retirer de la vente libre l'ibuprofène. En tout cas, c'est vrai que c'est une nouvelle alarme par rapport déjà à des effets secondaires sur les reins, sur le cœur, sur les équilibres sodiques et autres qui ont déjà préoccupé un certain nombre de médecins. Donc, aux agences maintenant de bien réfléchir à l'accumulation de données dans ce domaine.
Merci beaucoup Bernard Gégaud, vous êtes donc co-auteur de cette étude, chercheur à l'INSERM, et vous étiez en duplex des studios de France Bleu Armorique à Rennes. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, grandir de plusieurs centimètres dans l'espace, eh bien c'est possible. L'apesanteur est connue pour produire des effets indésirables sur le corps, de l'atrophie musculaire à l'aplatissement des globes oculaires. Il arrive également que les astronautes grandissent. C'est ce qu'a constaté le japonais Norishi Kanai lors de son bilan de santé. 3 semaines après être arrivé à bord de la Station Spatiale Internationale, il a gagné près de 9 centimètres, comme il l'a expliqué avec humour sur son compte Twitter. Catherine Dolto, vous êtes intéressée pour aller dans l'espace? Il mesure à présent 1m82 et donc il espère s'arrêter là pour pouvoir quand même rentrer dans la capsule Soyouz supposée le ramener sur Terre en avril. Une seconde vie pour les batteries. Le professeur Yazami de l'université technologique d'Nanyang à Singapour vient de trouver un moyen de restaurer les batteries lithium-ion en fin de vie présentes dans la plupart de nos smartphones, d'ordinateurs et même de voitures électroniques. Leur remplacement coûte souvent très cher aux utilisateurs. Son invention requiert d'ajouter une troisième électrode sur les batteries qui, une fois branchées et activées, permettra de retrouver 95% de leur capacité initiale. En plus d'être simple à mettre en place, cette méthode est éco-responsable puisqu'elle devrait diminuer le nombre de batteries produites et donc jetées. Un prototype a déjà été réalisé. De grandes firmes comme Apple ou Samsung se disent très intéressées par la découverte donc du professeur Yazami. Et puis les dégâts de la pollution sonore sur les oiseaux. Des chercheurs de l'université de Boulder au Colorado ont placé 240 nids plus ou moins proches d'installations génératrices de bruit afin de mesurer le niveau de stress des animaux. Ils ont constaté que la réaction des oiseaux fortement exposés au bruit présentait des similitudes avec d'autres espèces sujettes à un important stress. Les spécialistes pensent que le bruit permanent empêche les mères de déterminer efficacement la présence de prédateurs. Elles se retrouvent donc partagées entre protéger leurs petits et quitter leur nid pour les nourrir. Les oisillons nés dans de tels environnements se retrouvent de fait plus petits et en moins bonne santé. Et les enfants, justement, on en parle, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant.
Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée à cappella. Clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère, mais tu le corrigeras pas. La colère de voir sous la princesse un petit poids.
Et c'était la voix de Camille. Je ne mâche pas mes mots.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Les enfants face aux événements douloureux et aux traumatismes, dossier donc de l'émission cet après-midi. Hélène Romano, vous êtes avec nous pour en parler, psychiatre et docteur en psychopathologie. Vous publiez « Quand la vie fait mal aux enfants » avec en sous-titre « Séparation, deuil et attentat », c'est chez Odile Jacob. Et Catherine Dolto, médecin aptothérapeute, vous signez les mots et les images qui font peur chez Gallimard Jeunesse dans la collection « Mine de rien ». Les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « L'attaque ». Jean Lebrun disait tout à l'heure « Tiens, j'apprends des nouveaux mots avec vous, aptothérapeute ». Aptothérapeute, je vous le demande à chaque fois, hein, Catherine. Qu'est-ce que c'est qu'un aptothérapeute en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas, évidemment.
Il utilise l'aptonomie comme outil thérapeutique.
Mais c'est quoi l'aptonomie?
L'aptonomie, c'est la science de l'affectivité. C'est-à-dire, ça consiste à pratiquer le soin, l'éducation, en comprenant que l'affectif, c'est-à-dire ce qui en nous s'émeut, aime, souffre, etc., les perceptions et les sensations, est le filtre qui organise tout le temps le lien entre le cortex, enfin la pensée et le corps. Donc, pour nous, il n'y a pas de séparation corps-esprit.
Alors, Hélène Romano et Catherine Dolto, j'aimerais vous poser d'abord une première question concernant l'époque que nous vivons. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les enfants aujourd'hui, alors en dehors évidemment des événements pouvant intervenir au sein même de leur famille, sont confrontés beaucoup plus souvent à des événements difficiles, voire traumatisants, Hélène Romano?
Alors, il y a un contexte particulier, c'est que les enfants actuellement, ils sont confrontés beaucoup plus du fait de l'impact des médias. Et les attentats l'ont montré, les images H24 sur les télés à la maison, les images peuvent impacter les enfants avec beaucoup de violence quand les parents sont pas là pour les décrypter. On n'avait pas ça sur les générations précédentes. Et on est également dans un contexte où les parents sont beaucoup plus indisponibles psychiquement pour leur enfant. Ce que vous disiez tout à l'heure, la nécessité de pouvoir prendre soin de son enfant au quotidien, d'être disponible. Alors vous parliez des oiseaux, on se regardait toutes les deux. Un enfant, c'est un petit piou-piou. Le parent, pour protéger son enfant, il doit pouvoir être disponible psychiquement. S'il est insécurisé, s'il a trop peur du monde qui l'entoure, il ne pourra pas être disponible pour son enfant. Et chez l'être humain, c'est aussi ça qui se passe. Et on a actuellement une génération de parents qui veulent des enfants parfaits, des enfants qui sont très gratifiants. Et un enfant, ce n'est pas forcément toujours ça. Et un enfant, il n'est pas indemne d'être blessé par des événements de vie, des fois qui peuvent paraître anodins pour des parents, un déménagement, changement de chambre, mais qui peuvent être très traumatogène, très blessant psychiquement pour l'enfant. Et les parents ne comprennent pas trop que l'enfant aille mal et ont tendance à banaliser. Et puis il y a des drames beaucoup plus lourds comme la perte d'un parent, le deuil, la maladie, les attentats où là les adultes ont très souvent tendance à considérer que les petits 0-3 ans en particulier sont trop petits pour comprendre. Ça ne sert à rien de leur dire. On va édulcorer. Il est malade quand un parent s'est suicidé au lieu de dire qu'il était schizophrène, dit que c'est la maladie qui fait qu'il s'est suicidé. Où il y a des méchants qui en ont tué d'autres, au lieu d'utiliser le mot terroriste. Donc mettre des mots, et je rejoins complètement, ça permet de penser les choses autrement.
C'est ça. Alors ça, c'est d'ailleurs très étonnant, parce qu'évidemment, on pense à Françoise Dolto, Catherine Dolto, qui justement nous a beaucoup conseillé de parler à nos enfants. Je pense que les auditeurs de France Inter ont beaucoup entendu ce message. Et pourtant, encore, on a du mal à le faire, finalement.
Oui,
à dire simplement les choses aussi.
Oui, quand je suis arrivée chez Gallimard en disant que je voulais faire ce titre sur les attentats, ça devait s'appeler comme ça, puis on m'a changé mon titre. Beaucoup de gens m'ont dit, mais ça ne les concerne pas. Alors qu'au contraire, les enfants en maternelle sont les premiers impactés, avec le plan Vigipirate, avec tout ça, les sorties différées, les petits sont très impactés. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Hélène, autre chose encore, c'est que d'une façon générale, la société est une phobocratie. Les gens ont peur de tout, assurance-ocratie, phobocratie, on veut assurer de tout, et que ces enfants qui arrivent au monde, ils ont souvent déjà vécu des grossesses qui étaient anxiogènes pour la mère, parce qu'on va tout le temps multiplier les examens, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'est pas normal, etc. Et donc déjà, la sécurité affective des parents comme des enfants est malmenée, très petit. Donc c'est pas rien, parce qu'ils se construisent dans cette atmosphère.
Vous êtes d'accord aussi pour dire que les médias aujourd'hui amplifient les effets anxiogènes, justement?
Bien sûr.
Ce sont les effets délétères, les conséquences délétères en tout cas de toutes ces informations qui circulent.
Mais oui, parce que regardez, quand on montre, les télévisions continuent, montrent la même image tout le temps. L'image, c'est hypnotique chez les petits, les écrans. Donc quand on voit tout le temps une tour qui s'effondre, des gens qui tombent, des choses en feu, ça rentre à l'intérieur de l'enfant. Et on ne pense pas forcément à lui en parler après. On retrouve quelqu'un qui a traversé une après-midi complètement traumatique et on lui dit « qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?»
C'est ça. On ne pense pas en parler à ses enfants quand on est parent parce qu'on ne réalise pas au fond ce qui se passe dans la tête de ses enfants, Hélène Romano.
Oui, je pense que c'est, au-delà des médias, c'est vraiment la place du parent. Parce que les médias évoluent, il y a toute cette technologie qui fait qu'on a des accès beaucoup plus rapides aux informations. Mais c'est pas le média en tant que tel. Je pense que c'est la place du parent par rapport aux médias. Mmh. Moi, j'avais fait une étude suite au 11 septembre. On voyait bien, comme disait Françoise, les enfants face aux...
Catherine,
ben voilà.
C'est très bien.
Dans la transmission, j'étais sûre que j'allais faire le bug. Je suis désolée.
C'est très bien, c'est pas grave.
Vous parlez des attentats du 11 septembre.
Ils n'ont pas vu deux avions, ils ont vu des milliers d'avions, ils n'ont pas vu un Mohamed Ben Merah, ils en ont vu des milliers. Et de ne pas leur dire, de ne pas mettre des mots, de ne pas mettre des mots sur les images, c'est extrêmement délétère. Parce qu'au final, les enfants vont se construire des représentations, des théories souvent bien plus dramatiques que l'horreur auquel on essaie de les protéger. On peut transformer sa maison en bunker, hein, pas de médias, pas de télé, mais notre enfant, il va à l'école, il a des copains. Il y a eu beaucoup d'enfants et de jeunes enfants qui vont sur Internet, et sur Internet, vous ne pouvez pas les protéger de ça, et qui vont voir des images de décapitation, des images de corps, je ne parle même pas d'images pornographiques, mais cette mort en face, ils les ont, ils sont seuls face aux images. Donc il y a une véritable éducation aux images à transmettre du côté des parents. Il y a les médias bien sûr, mais il y a les parents qui sont fondamentaux.
Alors justement, on va écouter l'échange entre un papa et son petit garçon. C'était le 15 novembre 2015 sur la place de la République, donc à deux jours après les attentats du Bataclan. Il s'appelle Brandon, il a 6 ans.
Oui.
Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça?
Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison.
Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison.
Mais il y a des méchants, papa.
Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout.
Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa.
C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs.
Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour...
Si, regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets.
C'est pour protéger.
Voilà.
Et les bougies aussi.
C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein.
C'est pour nous protéger, les fleurs et les bougies.
Oui.
Voilà, donc après les attentats parisiens en novembre 2015, extrait du Petit Journal sur Canal+. J'aimerais avoir tout de suite une impression de cet échange hein, entre ce papa et son petit garçon, Catherine Dolto par exemple.
Ben, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas très convaincu par le fait que les bougies et les fleurs, ça protégeait.
Ouais.
Hein, il faut pas oublier que... Alors, ce qu'a dit Hélène tout à l'heure... Quand on ne dit pas aux enfants ce qui se passe, ce qu'ils imaginent est bien pire. Parce que à l'intérieur des enfants, il y a de la violence. Du méchant, il y en a dans le meilleur des enfants. Et c'est pour ça que chez eux, cette espèce de tentative de mettre les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, c'est une tentative de se protéger de ce qu'ils sentent comme violence en eux. Et c'est ça dont il faut leur parler, qu'ils n'aient pas peur de ça, parce qu'ils vont quand même se conduire comme des humains dignes de ce nom, même s'ils ressentent de la violence en eux.
D'ailleurs, il y a une illustration dans votre livre avec cette scène où on voit justement un petit garçon avec son papa, une petite fille en l'occurrence, parce que ça fait du bien de sentir qu'on est tous ensemble face au malheur aussi.
C'est ça, moi je dirais plutôt ça plutôt que de protéger. Ça ne protège pas, mais ça amadoue la souffrance de sentir qu'on est ensemble en tant que groupe humain, humanisé par l'être ensemble, pour dire qu'on ne veut pas de ça.
Hélène Romano.
Oui, moi j'étais dans le Grand Journal quand il y avait eu cet extrait-là et on voyait la bouille de ce petit garçon et regardant son papa d'un air interloqué, genre tu me racontes n'importe quoi, oui papa, les fleurs contre les fusils. Mmh. Et on voyait ce pauvre papa qui ramait pour essayer de rassurer. Et en fait, il y a un petit mot en effet qui aurait pu lui permettre de le rassurer totalement. Un enfant qui est face à quelque chose qu'il ne comprend pas, ce qui peut être traumatogène, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Ce qui va l'aider, c'est de savoir qu'il n'est pas tout seul et que le parent puisse lui dire on n'est pas tout seul. Face aux méchants qu'on appelle des terroristes et donner le nom parce que c'est pas des méchants n'importe lesquels. La force, c'est aussi d'être ensemble, de pas oublier ceux qui sont morts. Donc les bougies, ça sert à ça. Ça sert à montrer qu'on est tous là, tous ensemble. On n'est jamais seul au monde. Et c'est là-dessus qu'il peut protéger psychiquement son enfant sans être dans l'illusion de les terroristes reviendront pas. Parce que moi, j'ai vu des parents très rapidement qui, suite à Charlie, avaient dit à leurs enfants plus jamais ça. Et il y a eu, moins d'un an après, à nouveau les attentats, à peu près dans le même quartier. Et la première des choses qu'avaient dit ses enfants à leurs parents, c'est « Tu m'as menti, tu m'avais dit plus jamais ça ». Et les papas étaient effondrés, disant « Mais qu'est-ce que j'aurais dû dire ?» Je réapprends à dire je. J'espère que ce sera plus jamais ça. Et quoi qu'il arrive, tu seras pas seul au monde.
Ouais, mais bon, il faut évidemment être très indulgent, hein, parce que c'est compliqué aussi pour les parents qui sont comme les enfants sous le choc aussi de ces événements et qui, on le sent bien, vont devoir puiser très très loin aussi pour trouver les bons mots à poser. C'est déjà bien de pouvoir entamer un dialogue.
Oser dire son désarroi, son propre désarroi.
De parents.
Oui.
Ouais. Et puis, sécuriser les enfants aussi, en leur rappelant, comme c'est le cas dans ce livre, Catherine Dolto, qu'à la maison et à l'école, on est à l'abri, et que dans la ville, il y a de plus en plus de gens qui sont payés pour nous protéger. Et il faut leur rappeler qu'il y a des gendarmes, des policiers, des militaires, ou des pompiers qui sont là.
Mais bien sûr.
Ils le voient.
D'abord, ils le voient. Un enfant arrive et voit des hommes en treillis avec des fusils devant son école, s'il les voit comme des protecteurs, ça fait moins peur, quand même. Mais oui, il faut dire le vrai.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion et avec les messages des auditeurs sur le site de la Tête au Carré. Everybody sings the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. Is everybody feeling the same stuff? We're all wild, except for you. And you know who you are. This is a love song. And you're getting older. I promise you this, you're getting older. And there's improvements in less. You're such a winner that the future's a nightmare. And there's nothing I can do, nothing anyone can do about this. Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré avec à l'instant LCD Sound System Tonight.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, les enfants face à la violence et au traumatisme avec la psychiatre Hélène Romano et Catherine Dolto, médecin aptothérapeute, avec vos livres respectifs, Quand la vie fait mal aux enfants. C'est pour vous, Hélène Romano, chez Odile Jacob. Et puis Catherine Dolto, donc les mots et les images qui font peur. C'est Gallimard Jeunesse avec cette collection Mine de rien qui fête ses 20 ans. Hein. Donc en quelques mots, en quelques illustrations, on a des outils très utiles aussi pour aider les petits.
Il y a 80 titres qui parlent de toutes les situations qui affectent les enfants, justement pour attirer l'attention des grandes personnes sur le fait que les enfants, ils sont aussi intelligents qu'eux et qu'ils ont besoin qu'on leur parle. Mmh. Ils peuvent partager la vérité. Alors pas tout, pas n'importe comment. C'est ça qui est difficile.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager avec un enfant ?
Ben, je veux dire que les drames, par exemple, je parle des décès, par exemple, ne justifient pas qu'on soit impudique et qu'on livre de l'intime de la personne qui est morte, par exemple. Sous prétexte de vérité. Mmh. Donc tout dire, c'est dire l'essentiel pour que ça fasse sens à un enfant, mais que ça n'abîme pas l'image du défunt, par exemple, s'il lui est proche. C'est pas sortir les petites querelles d'adultes et descendre à son niveau. C'est toujours élever le niveau quand on parle à un enfant.
Mmh. Mathilde nous dit, ma fille a perdu son papa au mois de mai dernier. Elle ne souhaite absolument pas parler de sa mort. Elle vit comme si de rien ne s'était passé et c'est assez difficile à gérer pour moi, sa maman. Comment réagir au mieux pour qu'elle puisse continuer à vivre sans souffrir? Hélène Romano.
Alors, quand elle dit qu'elle ne veut pas en parler, peut-être qu'elle ne veut pas en parler à sa maman pour pas inquiéter sa maman. C'est souvent le cas des enfants endeuillés.
Qui veulent protéger, au fond, leurs parents.
Protéger leurs parents, ça ne veut pas dire qu'elle n'en parle pas aux copines, qu'elle n'en parle pas à l'école, qu'elle n'en parle pas à d'autres. Ce que peut faire le parent dans ce cas-là, c'est simplement utiliser ce qu'il ressent, ses émotions. J'ai l'impression que depuis que papa est mort, c'est comme si c'était rien passé. Et je me dis que c'est peut-être le cas, mais peut-être que tu, dans ton cœur, souvent les enfants, ils disent qu'ils pleurent en dedans, que dans ton cœur, peut-être tu pleures ou tu peux avoir peut-être besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Donc le parent utilise ce qu'il ressent comme émotion, disons-je, avec ses hypothèses, peut-être que j'ai l'impression que ça laisse l'enfant la possibilité de se dire bon bah tiens, maman ou papa perçoit que je vais pas bien, parce que c'est aussi important qu'il l'entende. Il est pas affirmatif à dire t'es pas bien, tu vas pas bien, ou t'es pas normal à pas pleurer. Il est très bienveillant et s'ajuster à l'enfant, c'est ça, c'est dire, voilà, moi je me dis que papa, il est mort et c'est pas forcément facile pour toi, même si je vois la force que tu as, que tu prends pour pas montrer ton chagrin. Mais si t'as besoin d'en parler, il y a peut-être des endroits, des personnes à qui tu peux en parler et dire aux parents que faire un relais, il y a des professionnels, c'est important. Il s'agit pas de tout psychiatriser, bien sûr. Hein. Il y a les médecins, les pédiatres qui sont des très bons relais, la PMI pour les petits, l'école aussi, qui peut être un bon relais pour les parents. Mmh. Pas rester seul parce que c'est très difficile.
Catherine Dolto, vous avez souvent ce type de témoignage comme cette maman.
Oui, bien sûr. Alors, il y a tout ce qui vient d'être dit qui est très juste. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier qu'un adulte peut toujours dire à un enfant « Tu sais, moi, ça m'est trop douloureux de t'en parler. C'est trop difficile pour moi, mais tu as raison, c'est une bonne question. Et tu peux aller la poser à un tel, et je serai d'accord pour que tu y ailles. » C'est-à-dire donner à l'enfant le droit de se questionner et lui donner des pistes pour trouver des réponses. Parce que souvent, l'enfant sent que l'adulte est trop malheureux, et donc il veut protéger, comme toujours. Et du coup, ça devient tabou. On peut aussi dire, tu sais, moi je pense souvent à ton papa, et ça, c'est difficile pour moi. Je crois, alors toujours c'est vrai, toujours, je peux me tromper, mais je crois que ça nous ferait du bien si on pouvait en parler.
La mort, c'est quelque chose d'étonnant, de très étrange dans la vie d'un enfant. Personne n'est préparé à ce que ça arrive.
Pour tout le monde.
Mais dans le parcours d'un enfant et d'une enfance qu'on idéalise toujours, d'ailleurs.
Hein. Oui. Alors moi, ma mère disait toujours, mais dans le fond, qu'est-ce qui nous prouve que c'est mieux d'être vivant que mort? Et je trouvais ça très apaisant.
Oui, vraiment?
Mais oui, parce que c'est vrai, on n'en sait rien, comme personne ne sait ce que c'est que la mort. Mais aussi, je crois profondément que quand on a vraiment aimé quelqu'un et qu'il nous a aimés, l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas avec le mort. Ce qu'il a dit, ce qu'on a vécu avec lui, ça reste vivant. Et si on se repasse le film, si on y repense, etc. Et ce mort, il nous accompagne tout au long de notre vie, toujours. Et il faut donner le droit à l'enfant de vivre ça. Parce qu'ils n'osent pas en parler, souvent. Non.
Hélène Romano.
Ils n'osent pas en parler parce qu'il y a aussi une notion importante, c'est qu'avant 8-9 ans en moyenne, l'enfant ne se représente pas la mort comme quelque chose d'irréversible, d'universel, et s'imagine que ça s'attrape. Donc un tout petit qui est endeuillé, on va lui dire « bah Noël, fais ta commande », il va commander son petit frère au Père Noël qui est mort 6 mois avant, parce qu'il n'a pas la notion que c'est pour toujours que l'autre est mort. Donc ça déstabilise aussi beaucoup les adultes, et on parlait des médias tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui évolue dans la façon dont les adultes parlent aux enfants de la mort. C'est, je pense entre autres aux suicides qui sont des morts dans notre pays, dans notre culture française, hautement taboue, qui reste une vraie souffrance, une double peine pour les proches, le suicide, dans la société française. Les enfants souvent posent beaucoup de questions et il y a pas de questions gratuites. Ils ont déjà élaboré des théories derrière et des fois ils ont les infos via Internet parce que les médias en parlent. Et il y a 10 ans, il y avait les secrets de famille qui étaient très toxiques. Les parents disent, on dira pas qu'il est mort du suicide. On dira que son cœur s'est arrêté. Mais maintenant, l'enfant a l'information. Donc, un enfant qui pose des questions très tôt, et je rejoins complètement ce que vous disiez, c'est important de pouvoir lui dire, ta question est importante. Parce que ta question est importante, ça veut dire que tu es important. Je vais essayer d'y réfléchir. Et j'ai le droit de dire, bah là, je suis pas forcément meilleur placé pour y réfléchir. Mais avant de te répondre, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ou qu'est-ce que Doudou pense de ça pour un petit? Pour partir du niveau de connaissance de l'enfant et pas se tromper. Je prends un exemple plus léger. Comment fait les bébés? Si d'emblée l'enfant pose la question, si je vous dis bah les bébés c'est la petite graine et que mon enfant il est la petite cigogne, bah je vais être complètement à côté. Si à l'inverse je lui dis bah c'est la petite cigogne et que lui il en est déjà aux petites graines, je suis à côté. Alors si je lui dis écoute, qu'est-ce que toi tu sais, ta question est importante, c'est important, je vais essayer de te répondre au mieux. Pour te répondre au mieux, j'aurais besoin que tu me dises que c'est ce que toi tu sais. Alors s'il me sent inquiet, il va dire rien. Alors le parent peut se dire, ouf, tranquille, on passe à autre chose, parce qu'ils sont maman un peu flippée, un peu inquiète, mais il n'a pas posé la question pour rien. Donc c'est très important de lui dire à ce moment-là, mais bon, peut-être que les copains ils savent, ou Doudou peut-être qu'il sait, d'utiliser un médiateur. Et c'est très important que le parent comprenne qu'il n'y a jamais de questions gratuites, et de ne pas laisser l'enfant seul face à ces questions.
Je voulais rebondir sur ce qu'Hélène dit, à propos de la précision des mots. Par exemple, souvent, on dit aux enfants, il est parti. Ben, pour un enfant, quelqu'un qui est parti...
Il va revenir.
Oui, d'abord il va revenir. Et puis c'est un acte volontaire. Je pars. En français, c'est ça. Donc l'enfant, il comprend pas que le parent est mort. Il se comprend pas pourquoi il revient. Donc il est parti parce que j'étais pas bien. J'étais pas assez gentil, j'étais pas assez gratifiant. Il revient pas parce que je suis pas assez gratifiant. Donc c'est très important de dire les vrais mots. Et puis il a choisi de mourir. Bon, il a choisi d'arrêter de vivre, des choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur, les enfants sont beaucoup plus simples par rapport à la mort que nous, parce qu'ils ne sont pas encore pris dans toute une fantasmagorie noirâtre qui est construite après. Eux, ils ont, par exemple, les enfants très gravement malades, ils ont un rapport à leur mort extraordinaire. Ils ont l'histoire du papillon qui s'envole, etc. Ils sont beaucoup moins dramatisants que les grandes personnes.
On va écouter également ce témoignage, extrait d'un reportage de BFM TV à la suite des attentats de Nice, donc en juillet 2016, avec le cas d'une petite fille qui a assisté justement aux attentats. Elle s'appelle Maëlys, elle a 7 ans et elle met des mots sur ce qu'elle a vu.
Dans sa maison, Maëlys, 7 ans, dessine encore et encore. Elle aime les arcs-en-ciel, les fleurs, mais pour raconter ce qu'elle a vu le 14 juillet, c'est toujours un feutre rouge qu'elle utilise et ses mots d'enfant.
Ça, c'est le policier qui est mort. Et ça, c'est la petite fille abandonnée qui a plein de sang. Et ça, c'est un petit jouet d'un enfant qui s'est perdu en chemin.
Quand le camion fou est arrivé, Maëlys se trouvait sur la promenade avec son petit frère et ses parents. Depuis, elle ne cesse de poser des questions.
Oui. Et pourquoi ça se produit à chaque fois?
Parce qu'il y a des méchants et que malheureusement, ce jour-là, on n'a rien pu faire.
Et c'est dur de trouver les mots pour expliquer à une enfant de 7 ans ce qui s'est passé ou pas?
Comment expliquer ça à une enfant de 7 ans? C'est dur, c'est dur. Nous, personnellement, on n'a pas les mots pour expliquer ça. Autant de violence, autant de... Moi, personnellement, en un quart de seconde, j'ai vu de la violence que j'ai pas vue dans toute une vie.
Moi, je n'avais jamais su qu'il y avait des méchants dans la vie.
Tu savais pas?
Non, parce que tellement il n'en avait pas que je me suis dit, ça n'existe pas.
Voilà le témoignage de Maëlys, 7 ans. Hélène Romano, donc la prise en charge des enfants et des familles qui sont confrontés à des morts violentes. C'est votre quotidien aussi en tant que psychiatre. Comment on peut justement réagir et aider ces petits là qui sont vraiment face à des images qu'on n'a pas pu leur cacher, hein?
Alors on les aide en aidant aussi les aidants, et c'est extrêmement important, en aidant les parents à mettre des mots sur leurs propres émotions, certaines fois à pouvoir ritualiser. C'est très important parce que le rituel permet à l'enfant d'être dans une position participation active et pas être passif face à la mort. Donc il peut revenir mettre des bougies, la vie, en lui proposant de faire quelque chose. Quand c'est un proche, en lui proposant de voir le corps, mais en accompagnant, c'est pas j'ouvre la porte, il va voir le corps, on accompagne véritablement. En particulier quand l'enfant, moi je travaille auprès de morts violents, hein, en particulier quand l'enfant était présent lors du décès et a vu le corps extrêmement endommagé de son père, de sa mère, de sa sœur. C'est la dernière image qu'il a vue. Et on sait que ça peut être hautement traumatogène dans les deuils des enfants et que c'est important qu'ils puissent, à la chambre funéraire, voir un corps apaisé, ouais, maquillé, que l'enfant ait pu participer, choisir les vêtements, par exemple, mettre des photos. Ils peuvent être très vivants, les enfants, dans la façon de préparer, de participer au rituel funéraire. Et c'est très important de ne pas les en déposséder, les exclure. Ouais. Parce que quand ils apprennent 20 ans plus tard qu'ils étaient au McDo, qu'ils étaient partis avec des copains faire la fête quelque part pendant que les autres étaient, la famille est à l'enterrement, là ils le vivent très mal parce qu'ils ont l'impression d'avoir été exclus.
Mais Catherine Dolto, il faut vraiment proposer ça à des enfants très jeunes,
hein, mais oui, je crois.
D'aller aux obsèques de leurs parents,
mais
par exemple.
On doit absolument. Alors quand c'est long, trop long, il faut qu'ils soient avec une grande personne qui peut les emmener. Parce que si c'est trop long, le faire sortir de la cérémonie, etc. Mais les rituels, c'est quand même fait pour les vivants. Je pense que le mort, ça lui est égal. Donc à quoi ça sert un rituel? Ça sert à amadouer cette chose incroyable d'être face à un corps sans vie et à cette perte extraordinaire. Donc, si on l'exclut de ça, c'est comme si on l'excluait de la société, hein, et du deuil. Et c'est extrêmement méprisant de priver un enfant, et c'est aussi le prendre pour un incapable de partager les rituels de deuil. Enfin, c'est très très grave. Alors, ils peuvent peut-être pas suivre tout. Et puis, on est très étonné du fait que les enfants posent des questions très concrètes, même sur le corps de quelqu'un qu'ils aiment, et comment il va se dissoudre, est-ce que les vers de terre vont le manger, enfin, des choses comme ça. Il faut pas se choquer. Les enfants sont très pragmatiques et leur cerveau fonctionne. Bien sûr, il faut qu'ils aillent aux cérémonies. C'est très violent d'être écarté.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous. On va y consacrer les dernières minutes de cette tête au carré avec d'autres questions pour vous sur franceinter.fr.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je. Est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches, ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges, par un après-midi pluvieux. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Avez-vous reconnu la voix de Francis Cabrel ? C'était le chêne Liège à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, Hélène Romano, Catherine Dolto pour poursuivre sur cette discussion autour des enfants face à la violence et au traumatisme. Beaucoup de messages. J'aimerais qu'on y consacre les 12 dernières minutes de l'émission avec Marie Guillemin qui nous écrit ceci. Ma fille de 12 ans a été confrontée à un exercice antiterroriste dans son collège. Seul détail, les enfants ne savaient pas qu'il s'agissait d'un exercice. Elle était très angoissée et j'imagine que les autres enfants aussi. Je trouve cette pratique pas du tout pédagogique. Qu'en pensez-vous, mesdames?
Alors, Hélène Romano. Pour avoir participé à la recommandation de la mise en place de ces exercices, c'est toujours la difficulté. On fait des recommandations et c'est l'application des recommandations. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer aux enfants, comme les exercices incendies, que c'est un exercice, former les enseignants qui sinon sont aussi extrêmement inquiets et profiter de ce temps-là qui est un temps anxiogène parce que ça peut réactiver aussi les images des attentats, tout ce qui a pu se passer, pouvoir leur expliquer qu'on est plus fort ensemble et comment on va se protéger ensemble. On va prendre soin les uns des autres. Il y en a peut-être un qui a du mal à se bouger, ben on va l'aider davantage. Apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer le fait qu'on est tous différents face à la peur. Et ça montre aussi, c'est là-dessus qu'on travaille sur la résilience collective, ça devrait permettre ça. Mais en effet, il y a eu beaucoup de soucis avec la mise en place de ces exercices. Des gamins qui ont été obligés de jouer les terroristes sous contrainte d'un chef d'établissement, d'autres qui, adultes, qui ont pris des pétards pour faire plus vrai. Non, ce sont des exercices, les enfants ont le droit de le savoir, mais en faisant l'exercice face à quelque chose de compliqué, parce que ça peut arriver, la Fermera nous l'a montré, l'objectif c'est de permettre aux enfants d'apprendre à être solidaires, à prendre soin les uns des autres. Et face à la mort, face à la peur, on n'est jamais seul au monde. C'est ça qui est très important.
Et puis surtout Dolto. Aussi, après un exercice comme ça, il faut prendre son temps et en reparler. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as senti? Et si on le refaisait, tu referais autrement, etc. En faire quelque chose après et pas rester avec cette expérience forte.
Pauline nous dit « J'ai accouché le 16 novembre 2015, un mois avant le terme, suite au traumatisme que les attentats m'ont procuré, un quartier où j'habitais, que je connaissais très bien, où des amis ont été impactés. Je vis toujours avec ça et je ne sais pas si je dois en parler à mon fils qui a maintenant 2 ans. »
Évidemment.
Catherine Dolto, vous avez beaucoup de personnes qui témoignent justement de la vie prénatale aussi.
Des enfants qui ont vécu les attentats in utero. Et ça reste... évidemment, à travers leur mère, leur père, quelque chose de traumatique. D'ailleurs, souvent, ils dysfonctionnent à l'anniversaire de ça. Et c'est évidemment qu'il faut leur en parler, puisqu'ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu directement et à travers les parents. Parce qu'in utero, on perçoit beaucoup, on est très poreux à l'univers extérieur. Non, non, bien sûr, il faut qu'elle en parle.
Hélène Romano.
Oui, avec des mots simples, on voit pareil pour les femmes victimes de violences conjugales, les enfants qui ne sont pas épargnés par la terreur, l'angoisse que peut vivre le parent. Et puis, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que l'enfant qui naît après un contexte de stress, il est imbibé d'hormones de stress. Donc, en parler, oui, mettre des mots. Et la maman peut très bien dire à son enfant, tu sais, pendant quand tu étais dans mon ventre, il s'est passé quelque chose de grave qui m'a fait très, très, très peur. J'ai eu très peur pour toi, pour moi. Et le fait de mettre des mots juste comme ça, mais t'es arrivé, tu vas bien, t'es là, et maintenant je suis rassurée, ça va apaiser les choses. C'est des mots très simples.
Dire tu l'as senti.
Voilà,
tu l'as senti avec moi.
Mais il y a juste un point là-dessus, parce qu'en France, au niveau des professionnels, moi j'ai écrit un article sur les bébés en deuil. C'est le seul article francophone qui existe dans une revue référencée. Et parce que ça a été une longue bagarre de pouvoir le publier, puisque beaucoup de collègues me disaient mais le deuil des bébés n'existe pas. Parce qu'un bébé, il y a la notion qu'un bébé, il est dans une relation fusionnelle à son parent. Donc avant 6 mois, on ne peut pas parler de deuil chez le bébé. Donc au début, l'article avait été refusé. Moi, c'était sur un suivi de 50 bébés endeuillés. Alors soit le père mort pendant la grossesse, soit dans les premiers mois de vie de l'enfant. Et des bébés qui avaient des troubles massifs, des troubles de l'attachement. Et le fait d'en parler, d'aider la maman à mettre des mots dessus, ça apaisait les choses. Mais juste pour rappeler la résistance des professionnels aussi à ces questions-là. Et mon ouvrage, il est pour les parents, mais aussi pour les professionnels, de ne pas banaliser ça. Parce qu'on voit qu'il y a un impact et on voit que quand on ne met pas des mots, l'impact il peut entraîner des dommages après pour l'enfant qui grandit.
Évidemment, vous avez réagi, Catherine Dolto, les bébés qui ne ressentent pas le deuil.
Mais oui, je suis stupéfaite que des gens puissent encore croire ça.
Les professionnels.
Ça croire, oui, s'ils croisent des bébés de temps en temps.
Brigitte nous dit, lors de la guerre en Irak, mon fils de 10 ans, effrayé sans que nous l'ayons soupçonné, avait fait un dessin avec des avions qui lâchaient des bombes sur des maisons habitées avec une légende. La dame Hussein, elle est méchante. Nous en avons parlé, il avait regardé la télévision avec nous et n'était pas habitué à ce genre d'émission. Il faut aussi mettre des mots sur les images qu'on voit ensemble.
Mais bien sûr, ça a été dit au début. Ouais. Les images, ça rentre à l'intérieur et ça tourne et ça hante. Donc c'est indispensable d'en parler.
Henri nous dit, le lendemain du 11 septembre 2001, je suis allé avec ma plus jeune fille à la gare de Lyon, il y avait des tas de militaires en patrouille. Ma fille a eu très peur et voulait sortir à tout prix sans attendre sa cousine. Léa avait vu à la télé cet attentat, justement, des images qui traumatisent aussi.
Qui traumatisent, et puis chaque attentat en rappelle d'autres, ou comme chaque accident peut en rappeler d'autres quand on a été concerné. Donc mettre des mots, expliquer pourquoi il y a les policiers, pourquoi il y a les militaires, on sait que ça va apaiser les choses. Et je pense qu'il faut réapprendre dans notre société que la souffrance, la mort, ça fait partie de la vie. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où il faut être parfait, il faut parler que des bisounours, mais ne dénier la souffrance, ça permet pas de faire face quand elle est là. Et réapprendre aux parents, parce que l'enfant il a besoin de son parent pour bien grandir psychiquement, réapprendre aux parents que face à des difficultés, il s'agit pas de se précipiter chez le psy, parce que beaucoup de parents ont les ressources, moi c'est ce que je développe dans le livre, pour mettre des mots simples, réassurer, coucouner son enfant. Quand ça devient plus compliqué, en effet faire appel à des professionnels, mais la souffrance ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie, et il y a un cycle de vie qui est comme ça, et c'est possiblement ça qui manque actuellement dans la génération des parents et qui nécessiterait d'être pris avec eux.
Après les camps, la vie, c'était un film en 2009 signé Virginie Linhart avec des témoignages de survivants des camps d'extermination déportés enfants ou adolescents. On écoute justement quelques-unes de ces voix pour parler ensuite de la transmission des traumatismes.
Quand on me demande comment on peut vivre après Auschwitz, je réponds, on vit pas après Auschwitz, on vit avec Auschwitz.
On voit une cheminée, toc, c'est le crématoire. Je peux pas l'expliquer. C'est quelque chose, ça vient automatiquement.
Hier, j'étais à la gymnastique. À un moment donné, avec les poids, ils nous font rester quelques instants comme ça. Et tout de suite, je dis, je paye maintenant pour faire ça, alors que là-bas, c'était la punition.
Nous pensions toutes qu'on avait une vie normale, sauf que c'est pas une vie normale. Sauf que maintenant je me rends compte, et j'espère que c'est seulement mes arrière-petits-enfants, et encore, je ne suis pas certaine, qu'ils ne seront pas marqués par ce que nous avons vécu.
Voilà, après les camps, la vie, donc ce film de 2009 signé Virginie Linhart. Hélène Romano, justement, vous évoquez dans votre ouvrage la façon dont les traumatismes aussi se transmettent au fil des générations.
Oui, quand il n'y a pas eu de mots posés, c'est important de le préciser, on répare pas une enfance brisée, on répare pas, on apprend à vivre avec, on fait avec. Et on apprend d'autant plus à vivre avec qu'on est aidé pour mettre des mots dessus et qu'on n'est pas seul au monde. Ça, c'est très important. Il y a eu des études qui ont montré qu'après les camps, la plupart des survivants n'ont pas pu en parler parce qu'ils n'étaient pas crus, ils n'étaient pas entendus, comme les victimes de violences conjugales ou les enfants qui sont exposés à des violences. Quand il y a le poids du déni ou de l'interdit de penser, de l'interdit de parler, ils ont beaucoup de mal à vivre et à survivre. Et c'est, dans ces cas-là, c'est transmis aux générations suivantes. Et on a eu beaucoup comme ça de situations, beaucoup d'études qui ont montré pour les survivants des camps que c'était les petits-enfants qui avaient les troubles. Ça avait sauté une génération. D'où l'importance d'en parler. On répare pas, mais on apprend, on apprivoise. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose qui serait du déni, de dire, allez hop, on efface tout, l'ardoise magique, on a vécu des choses atroces, hop, il était trop petit, on n'en parle plus. On apprend à vivre avec, mais on peut vivre avec.
Comment on fait corps, justement, quand on est une famille, par rapport à un événement aussi énorme que, par exemple, la déportation ?
La difficulté, c'est que c'est la victimisation. Et quand toute une génération, tout un peuple a été victime, comment faire que l'enfant ne se piège pas dans une position de victime par intermédiaire ? Et ça, c'est très important parce que se victimiser, c'est extrêmement délétère. Alors, bon, les humains sont des êtres violents et il va falloir apprendre à vivre avec ça. Et surtout, ça s'apprivoise, cette violence-là, par la parole, par la tendresse, par la confiance qu'on peut donner à l'enfant dans la vie, c'est-à-dire avoir quand même le courage de vivre. Parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour vivre tous les jours.
Hélène Romano, sur la victimisation, évidemment.
Ah oui, ça, moi j'ai consacré suffisamment d'ouvrages, entre autres avec Boris sur le sujet, avec Cyrulnik.
Boris Cyrulnik.
Ouais, Cyrulnik sur le sujet. À force de trop psychiatriser, de victimiser, on est victime de tout, victime de... Non, la vie, on n'est pas victime de tout, on ne va pas mettre des cellules psy parce qu'il y a de la neige et parce qu'on ne peut pas sortir de son chalet. C'est la nature, ce n'est pas forcément dramatique. Et bon, on va être à la maison, on va faire autre chose, on va jouer, on va... Vous voyez, c'est aussi la façon de voir la vie de façon plus positive, au-delà des difficultés, des horreurs qui peuvent exister, parce qu'elles existent, il ne s'agit pas d'être dans le déni et d'apprendre à mettre des mots dessus, des mots simples. Donc moi, dans mon ouvrage, c'est vraiment ça, permettre aux parents de trouver des mots simples pour parler de choses graves et être dans une réalité et permettre aux enfants d'être dans ces réalités, c'est ça qui les aidera à grandir.
Un dernier témoignage, Guy nous dit « Quand j'étais petit à l'école primaire, notre institutrice nous a tous emmenés voir une camarade handicapée qui venait de mourir et qui était dans son cercueil. Nous avons accompagné le corps au cimetière, même porté le cercueil. Je trouve que c'est une expérience positive qui m'a familiarisé avec l'idée de la mort. À présent, évidemment, on éviterait une telle expérience au sein de l'éducation nationale.
Bon, » De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on hésite à faire. Non, mais par exemple, d'autres enfants ont pu vivre ça de manière pas du tout positive. Il se trouve qu'il a vécu comme ça, tant mieux.
Quand c'est forcé, il ne faut pas c'est forcer, compliqué. Il faut proposer. Quand c'est proposé, c'est très aidant. Mais on ne force jamais, et en tout cas, l'Institut médico-légal ou un crématorium, ce n'est pas une sortie scolaire. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion de lieux, parce que ça participe à traumatiser davantage. Donc,
c'est ça important. Raconte que la camaraderie, la solidarité sont quand même des soutiens et des outils pour vivre, très tout important.
Merci beaucoup à toutes les
Merci
deux. Hélène Romano, donc Quand la vie fait mal aux enfants, Séparation, deuil, attentat, c'est chez Odile Jacob. Et puis docteur Catherine Dolto, Les mots et les images qui font peur, c'est très utile, c'est un outil formidable avec des dessins, évidemment des illustrations chez Gallimard Jeunesse dans la collection Mine de rien qui fête donc ses 20 ans. Merci infiniment à toutes
les
deux.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
Et c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Mathias Alléon et Élise Christophe qui étaient aujourd'hui à la technique. Et demain, ce sera une émission consacrée au volcan.